On est de retour aux amateurs de sport. Maintenant, c'est important de savoir, on a tellement parlé de Seattle au courant des dernières journées, des dernières semaines. Vous savez que le repêchage d'expansion, c'est demain. Est-ce qu'on vit la folie du repêchage d'expansion à Seattle? Jérémy Filosa s'est entretenu avec Alain Pouliot, un Québécois vivant à Seattle et qui nous décrit l'ambiance entourant ce repêchage d'expansion.
Alain, explique un petit peu aux gens qui nous écoutent dans quelles circonstances là, tu te retrouves maintenant à vivre du côté de Seattle.
Ouais, en fait, ça fait à peu près un petit peu plus que 6 ans que j'habite dans la région de Seattle. C'est le boulot, en fait, qui m'a amené ici. Et c'est une région assez spectaculaire, effervescence économique, puis t'as le sport. Ça fait que pour moi, c'est la combinaison assez parfaite.
Mais il y avait quand même un trou dans la, disons, dans la scène sportive à Seattle, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'équipe hivernale, ni de la Ligue nationale, ni de la NBA. Mais on voit maintenant qu'avec l'arrivée du Kraken, en tout cas, mon fils me disait ça hier, il dit, coudonc, ils ont plus de followers sur Instagram que la moitié des équipes de la Ligue nationale, et ils n'ont pas encore d'équipe officiellement. Est-ce que tu la sens, cette ferveur pour la nouvelle équipe de hockey à Seattle?
Ah, définitivement. En fait, je te dirais, depuis l'année passée, c'est vraiment devenu quelque chose dans la région. D'un point de vue merchandising, je lisais un article de Jeff Baker dans le Seattle Times qui a déjà écrit pour la Gazette puis qui est ici maintenant. Mm-hmm. Puis, en fait, je pense un peu comme lui que je pense que le Kraken, pour moi, c'est peut-être la deuxième équipe la plus en vue d'un point de vue merchandising dans la région de Seattle et dans l'État de Washington. Il y a du stuff de Kraken partout. Depuis l'année passée qui ont annoncé le nom puis les couleurs, c'est incroyable le nombre de personnes que tu vois avec des casquettes puis des t-shirts. Puis le merchandising était déjà partout dès l'année passée. C'est que tu as l'impression que l'équipe existe déjà.
Oui, exactement. En fait, il n'y a pas encore de joueurs. On va le savoir très, très, très bientôt. Mais justement, parlons-en de cette séance de repêchage de mercredi soir. C'est sûr qu'ici, à Montréal, on ne parle que de ça, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que certains joueurs d'envergure du Canadien ont été laissés sans protection, notamment Carey Price, mais aussi Shea Weber. Mais est-ce que du côté de Seattle, dans les 24-48 dernières heures, depuis que les équipes ont soumis leur liste, on en parle beaucoup dans les chaînes sportives et dans les médias?
J'ai vraiment l'impression que c'est depuis la fin, en fait, la finale de la Coupe cette année, j'ai l'impression que ça devient plus vrai. C'est qu'avant ça, on en parlait, il y avait un peu des articles, mais il n'y avait pas vraiment encore de joueurs. C'était pas encore vrai, je dirais. Depuis la fin de la Coupe, là, c'est vraiment vrai. On en parle beaucoup. Puis je te dirais, en fait, depuis que le nom de Carey Price, j'ai l'impression que ça a mis des conversations sur stéroïdes. Mm-hmm. Avec ses connexions avec la région, l'État de Washington, avec sa femme qui avait joué aussi junior majeur.
Exact.
On dirait que ça a donné un nom qui fait vraiment amplifier toutes les discussions autour du repêchage. Donc, bon, le même effet que Carey à Montréal.
Ben oui, exactement. Mais maintenant, la question que je voudrais te poser, parce que c'est sûr que tu n'es pas dans le secret des dieux, tu ne sais pas si l'équipe va repêcher Carey Price, tout comme nous. Mais ce que je voudrais te poser comme question, c'est est-ce que selon toi, cette organisation-là, avec le positionnement dans lequel elle s'est placée dans la ville, a absolument besoin d'un ou de deux joueurs vedettes? On se souvient que du côté de Vegas, on est allé chercher Fleury et Fleury a été un outil de marketing incroyable, sauf qu'il n'y avait peut-être pas de culture de hockey à Las Vegas. À Seattle, il y a quand même déjà une certaine culture de hockey. Comme tu dis, les gens ont déjà embarqué. Est-ce que c'est important pour le club d'aller chercher ce visage-là ou, selon toi, peu importe qui on repêche, les gens sont déjà, vendus à l'idée de l'équipe?
Moi, je pense que pour la première année, c'est pas si important que ça ici. Je pense que tout le marketing, puis tu sais, l'équipe propriétaire du Kraken a vraiment mis beaucoup d'argent. Ils ont mis de l'argent, un, pour acheter l'équipe, deux, dans l'aréna, qui ont fait une réflexion majeure.
Ouais.
Leur centre d'entraînement semble top-notch. Même les événements promotionnels qu'on voit, il y a vraiment beaucoup. Puis il y a eu quoi, 32 000 personnes, je pense, sur la liste d'attente pour des billets de saison, dont moi. C'est que c'est vraiment quelque chose de gros. Je pense que, bien sûr, ça aide. Je pense, en fait, que ce qui met le plus de pression sur le Kraken, en fait, c'est Vegas. Comme Vegas a tellement eu de succès en partant,
ouais,
je pense que les fans s'attendent à quelque chose de similaire. Donc, même si je pense que d'un point de vue commercial, c'est pas vraiment important, je pense que les attentes, puis par l'énergie qui a été mise, je pense que le monde veut avoir un peu une ride à la Vegas puis se rendre très loin aussitôt que possible.
Ben, ça, c'est certain. Et puis, en plus, on voit que la division Pacifique risque d'être une des divisions les plus faibles de la Ligue nationale. Le Kraken a l'embarras du choix pour ce qui est des joueurs qu'ils ont à leur disposition. Donc, normalement, il n'y a rien qui devrait empêcher cette équipe-là de bien performer dès cette saison. Lorsque tu as vu la liste des joueurs disponibles, est-ce que t'es tout de suite devenu excité par l'idée d'avoir de voir cette équipe-là immédiatement mettre la main sur des joueurs vedettes?
Je te dirais que je sais pas, peut-être mon côté montréalais, je veux dire, on va avoir Price, je vais en entendre pendant 5 ans encore de son âge, du contrat. Je sais pas si j'ai le goût de m'en taper ça. Mais en fait, oui, c'est excitant, ça devient vrai un peu. C'est sûr que mon côté québécois, j'espère que on va se retrouver peut-être avec un Gourde ou un Dano ou quelque chose de même, parce que je sais pas, ça crée des liens d'attachement un peu avec pour moi ici. Mm-hmm. Mais en fait, j'ai juste hâte de voir à quoi l'équipe va ressembler. J'ai pas vraiment de besoin d'un joueur comme Price ou à Saint-Louis, Tarasenko ou ouais, quelque chose de même. Je pense que pour moi, c'est pas vraiment ça. J'ai juste hâte de vivre l'expérience d'être au Climate Pledge Arena cet automne pour aller voir des matchs. C'est plus ça qui est important pour moi. Puis s'il y a des bons joueurs, tant mieux, mais je pense qu'il y a assez d'énergie que même si c'est un peu des no-names, des jeunes ou que c'est plus un projet, moi, je suis très correct avec ça pour les deux premières années.
Et quelles sont les réflexions majeures qu'on a effectuées à l'aréna? On a vu quelques images là, sur les médias sociaux. Ça va être un amphithéâtre qui va avoir des fenêtres, hein? C'est ça, on va pouvoir voir dehors?
Oui, ben en fait, c'est que l'ancien Key Arena, qui oui, était un peu le domicile des Supersonics, puis je pense l'équipe de la WNBA, le Storm aussi, en fait, ils ont gardé le toit, puis ils ont tout arraché ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis c'est spécial parce que, en fait, c'est comme si l'aréna était comme creusée dans le sol. Ça fait que t'as pas l'impression que c'est gros. Tu la remarques même pas vraiment beaucoup. Mm-hmm. Mais pour créer cette lumière, comme la patinoire va être, je pense, je sais pas combien de dizaines de pieds sous la terre, en fait, ils ont créé ces espèces de grandes fenêtres-là. Ça va être quelque chose de spectaculaire. Je pense qu'ils sont rendus à 800 millions ou quelque chose de même pour cette aréna-là. Ça va wow, vraiment être spectaculaire. C'est assez, je dirais, centrale d'entente, ça va vraiment être un lieu de happening. Fait que vraiment, ils ont tout fait pour que ce soit une explosion de hockey. Puis à Seattle, un, il y a de l'argent. Puis deux, t'as du monde un peu partout. Donc, Seattle, comme il y a de la croissance incroyable depuis 30 ans, t'as mm-hmm, plein de Canadiens, t'as plein de monde de la côte Est, de US aussi, ou des États, je dirais, plus hockey. Ça va pogner. C'est même pas une question de si ça va pogner, c'est juste, ça va être quoi l'ampleur.
Ouais, parce que, écoute, je présume que le succès, justement, t'en parlais un peu tout à l'heure, des Golden Knights, rapidement, a fait en sorte que le marché là-bas s'est dit, tu sais, nous autres, on n'aura pas à attendre 5, 6, 7 ans. On va avoir une bonne équipe intéressante, le fun à regarder dès le début. Puis ça, veut pas, ça doit avoir motivé des gens dès le début, justement, à s'acheter des billets de saison à cause de cette raison-là.
Définitivement. Je pense que le fait de voir que tu ne vas pas nécessairement attendre, prendre un peu une approche des Oilers, puis être dernier pendant 8 ans, puis d'avoir 7 choix au premier overall pour en faire de quoi. Donc, je pense que ça aide, mais il y a vraiment une culture sport ici à Seattle qui est juste intense. Puis honnêtement, même si les Golden Knights ont pu montrer que oui, c'est possible dès le début d'être compétitif, les gens embarquent derrière leurs équipes. Je veux dire, les Mariners, c'est l'équipe, je pense, des ligues, de toutes les ligues majeures, que ça fait le plus longtemps qu'ils n'ont pas fait les séries. Mm-hmm. Ils attirent encore entre 25 000 et 30 000 personnes par match, peu ouais, importe. Cette année, c'est un peu différent, mais les gens ici supportent, peu importe. Puis je pense que le Kraken, tu mets l'énergie en plus de ici la volonté des gens de supporter, puis ça crée une explosion en fait de fandom, si on peut appeler ça.
Tu disais tout à l'heure que tu les places deuxième à Seattle en termes d'importance. Donc c'est les Seahawks, ensuite c'est le Kraken, et ensuite je présume les Mariners et les Sounders, parce que les Sounders c'est plein aussi à tous les matchs là.
Ouais, les Sounders, ils ont vraiment, je te dirais, un corps de soccer super fort. Je pense que pour moi, les Mariners et les Sounders, c'est à peu près la même affaire. Je te dirais que je mettrais l'University of Washington peut-être par-dessus les Mariners et les Sounders parce que, bon, ben, le football collégial, ça reste quand même quelque chose d'immense ici. Mm-hmm. Puis à l'automne, le mauve et jaune de l'Université de Washington est assez omniprésent.
Bon, rapidement, la dernière question. Si Carey Price se retrouve avec le Kraken de Seattle, as-tu l'impression que ça va être plus plaisant pour lui de jouer là-bas étant donné que j'ai comme l'impression que les premières années, les gens vont tellement être emballés par le fait qu'ils ont du hockey de la Ligue nationale que la pression risque d'être un peu moins importante sur ses épaules comparativement à ici. Cette année, la saison régulière a été assez difficile pour lui et disons qu'il en a entendu parler pratiquement durant toute la saison régulière, tandis que du côté de Seattle, il risque d'avoir quand même le bénéfice du doute pendant quelques années, que ça risque d'être plus plaisant pour lui et sa famille là-bas.
Tu sais, je suis pas dans sa tête, je ne sais pas vraiment, mais je te dirais que c'est sûr que le côté quasi religion du Canadien à Montréal, ça doit être vraiment difficile, surtout pour des joueurs vedettes. Je veux dire, Carey a toujours été, je dirais, assez calme et cool, si on veut. Mais définitivement ici, je pense qu'il va avoir de la pression pour gagner, mais pour l'instant, on verra ce sera dans quoi dans quelques années, mais j'ai pas l'impression que ce serait malsain. Donc, tu sais, même quand je voyais le nom de Jonathan Drouin qui était disponible, je me disais, est-ce que ce serait un endroit pour lui ou qu'il pourrait vraiment comme prendre, on sait pas où il y en est, mais tu sais, que ce serait le genre d'endroit que ce serait bien pour le prochain chapitre de sa carrière.
Bon, ben excellent. Merci beaucoup, Alain Pouliot. Très apprécié. On va te laisser retourner à tes petites choses et surtout apprécier le sport du Nord-Ouest des États-Unis. Et merci de nous avoir donné quelques minutes aujourd'hui. C'est très apprécié.
Ben ça marche. Merci beaucoup, Jérémy. Puis salut à tout le monde au Québec.
Voilà, c'était Jérémy Filosa qui s'entretenait avec Alain Pouliot, un Québécois vivant du côté de Seattle. On s'arrête quelques instants et vendredi, ça sera le repêchage amateur. Plusieurs voient le jeune Zachary Bolduc de l'Océanique de Rimouski sortir au premier tour. On va lui poser la question. Êtes-vous nerveux, mon cher ami Zachary, à quelques jours du repêchage? Zachary Bolduc est avec nous au retour. Restez là.